Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Bruit de chaises et traits tirés. Les tractations se poursuivent entre socialistes et insoumis, toujours en quête d'un accord pour les législatives. Accord trouvé, en revanche, avec les communistes. Cérémonie samedi prochain à l'Élysée pour l'investiture d'Emmanuel Macron réélu. Plusieurs ministres ne souhaitent pas re-signer dans un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont passé plus de 2 heures au téléphone ce mardi, comme un dialogue de sourds à propos de l'Ukraine. Vous l'entendrez. Les vertu de la semaine de 4 jours. Cette fois, on ne va pas à l'école, mais au resto. C'est l'astuce d'un restaurateur contre la pénurie de main-d'œuvre. On vous emmènera dans les Hauts-de-France en fin de journal. Le temps demain sera très contrasté. Instabilité orageuse des Pyrénées à la façade est, des éclaircies ailleurs. On s'intéressera à 22h20 à la rénovation énergétique avec le patron d'Elowatt. Vous savez que les aides diminuent alors même que la demande augmente. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin. Rien n'est encore fait du côté des socialistes, mais la nouvelle famille de la gauche s'est encore agrandie. Après les Verts, la nouvelle Union populaire écologique et sociale accueille les communistes, le Parti communiste français et les insoumis sont parvenus à un accord, Alexis de la Fontaine.
Oui, avec une large majorité, 125 pour, 25 contre et 13 blancs, le Parti communiste adopte l'accord de l'Union de la gauche et participe ainsi au programme commun, un peu différent de celui des écologistes. Mais à la clé, 50 circonscriptions, dont 16 dites gagnables, suffisamment donc pour obtenir un groupe à l'Assemblée. Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ne cache pas sa joie.
C'est une bonne nouvelle de plus avec le Parti communiste qui rejoint cette nouvelle union populaire avec des discussions qui ont commencé il y a maintenant plusieurs semaines et qui se sont terminées ce matin. Et maintenant j'espère que dans les prochaines heures, on pourra annoncer l'élargissement de cet accord pour faire en sorte de pouvoir partir tous ensemble dans la bataille des élections.
Tous ensemble, c'est-à-dire avec les socialistes, encore présents au siège de la France insoumise au moment où je vous parle, pour finaliser les derniers détails de leur accord. Un consensus sur le programme a été trouvé, maintenant les négociations se portent sur le partage des sièges. Le PS en demande entre 60 et 70, mais les insoumis en proposent une cinquantaine. Et tous les regards sont portés vers le Nord, Paris et le Sud, les fiefs de Martine Aubry, Anne Hidalgo et Carole Delga. Trois fédérations capitales pour Olivier Faure s'il veut que le bureau national du parti valide l'alliance avec les insoumis. Enfin, l'annonce de cet accord devrait être imminente, affirment plusieurs responsables insoumis.
Alexis de la Fontaine au siège de la France insoumise dans le 10e arrondissement de Paris pour Europe 1. Il y a de l'orage dans l'air dans les rangs du PS. Certaines figures historiques du parti ne veulent pas entendre parler de cette alliance avec les insoumis, comme Bernard Cazeneuve par exemple. L'ancien Premier ministre de François Hollande claquera la porte du PS, il l'a dit, s'il rejoint cette union-là de la gauche. Ce serait un reniement de nos convictions, Bernard Cazeneuve l'écrit sur Facebook. Les dirigeants du PS ont perdu la boussole. Alors qu'en pensent les sympathisants ? Zoé Palli, on a rencontré pour Europe 1.
Une union, il en est largement temps, sourit Véronique, 63 ans, attablée à une terrasse de café.
Je suis partante, parce qu'il faut qu'il y ait une force à gauche importante. Moi j'avais voté François Mitterrand, c'était l'union de la gauche. Et j'avais un père à l'époque au PC. Ça représentait des choses, un grand-père socialiste, un père au PC.
Et certains ont d'ailleurs déjà sauté le pas, comme Catherine. Cette socialiste a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle.
Moi, mon premier choix c'était Anne Hidalgo. Et puis bah, voilà, j'ai pas voté pour elle. Je me suis dit, bah, il valait mieux porter nos voix vers quelqu'un qui pouvait rassembler le plus de gens possible. Moi, j'aime pas spécialement Mélenchon. En fait, je compte sur le fait qu'il y ait des gens autour de lui qui puissent l'empêcher d'aller vers ces vieux trucs anti-européens. C'est ça mon espoir.
Pour d'autres, un accord, c'est d'ailleurs la seule chance de survie du PS. Certains se sont détournés du parti ces dernières années et n'envisagent de revoter pour les socialistes qu'en cas d'union pour les législatives.
Zoé Palier, voilà donc pour le côté gauche de l'échiquier, mais dans le camp présidentiel aussi, il y a un puzzle à assembler. Loin de l'union parfaite rêvée par Emmanuel Macron, la majorité reste un patchwork de composantes, pas toujours pressées d'ailleurs de s'unir sous la même bannière. Il y a des tensions en particulier avec Horizon, Arthur Delaborde, le mouvement d'Édouard Philippe qui tenait ce mardi son bureau politique.
Oui, tous les cadres d'Horizon étaient réunis ce soir autour d'Édouard Philippe, l'occasion de faire un point sur les négociations en cours entre le parti et les différentes composantes de la majorité sur la question des investitures.
J'ai indiqué où nous en étions, pourquoi les discussions se passaient dans des conditions de travail sérieux, de bonne confiance, et je dirais même de bonne humeur, contrairement à ce que j'entends parfois. Notre objectif, c'est de continuer à discuter et d'avoir le plus rapidement possible, je l'espère, un bon accord.
Voilà pour la position officielle, mais en réalité, c'est un véritable bras de fer qui oppose l'ancien Premier ministre à Emmanuel Macron. Le président lui reproche de convoiter trop de circonscriptions et de ne pas se contenter de proposer ses candidats horizons dans celles dites de conquête, c'est-à-dire des circonscriptions difficilement prenables. Alors, qui va remporter cette bataille des investitures? Deux premiers éléments de réponse sont attendus a priori demain, avec la publication d'une première liste de candidats validée par Emmanuel Macron.
Alors, un tout petit peu de visibilité, hein, quand même, sur la suite, Arthur. On sait maintenant que la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu samedi matin à l'Élysée, ce qui va nous rapprocher d'un nouveau gouvernement. D'ailleurs, plusieurs ministres ont fait savoir, Arthur, qu'ils ne souhaitaient pas re-signer.
Oui, c'est le cas de Jean-Baptiste Djebbari au transport, de Cédric O à la transition numérique ou encore du secrétaire d'État chargé de l'enfance, Adrien Taquet. Et dans le même temps, le doute persiste sur l'avenir d'une dizaine de poids lourds sur la sellette. Florence Parly, Roselyne Bachelot, Jean-Michel Blanquer, Éric Dupond-Moretti, Barbara Pompili ou encore Marlène Schiappa. Et selon nos informations, cette dernière a même tenté une sorte de pari puisque l'actuel ministre de la Citoyenneté refuse d'être candidate aux législatives, mais elle fait tout son possible en parallèle pour rester au gouvernement.
Arthur Delaborde. Le parti Reconquête d'Éric Zemmour présentera 550 candidats aux législatives, parmi eux 176 issus des Républicains, 159 du Rassemblement National. Reconquête déplore que LR et le RN aient repoussé sa main tendue en vue d'une alliance. Cela faisait plus d'un mois qu'ils n'avaient plus échangé un mot au téléphone. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé pendant 2h10. Marion Gauthier, 2h10 d'un dialogue de sourds, si l'on compare en tout cas les versions du Kremlin et de l'Élysée.
Oui, deux palais, deux histoires et pas une seule concession. Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine à la responsabilité. Ce dernier rétorque qu'il suffit d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine et insiste, l'Occident pourrait aider à stopper ces atrocités. Alors que l'Élysée s'inquiète de la situation à Mariupol, dans le même temps, le Kremlin lance sans sourciller les chars et l'infanterie sur la Syrie d'Azovstal, dernière poche de résistance de la ville portuaire. La sécurité alimentaire mondiale est évidemment abordée dans la discussion. Macron l'explique par le blocus russe sur les exportations ukrainiennes. Mais pour Poutine, c'est une conséquence des sanctions occidentales. Il faut négocier la paix et le plein respect de la souveraineté de l'Ukraine, écrit encore Paris. De son côté, Moscou fustige le manque de sérieux de Kiev. Alors c'était la première fois que les deux dirigeants échangeaient depuis la découverte du massacre de Boutcha. Emmanuel Macron avait affirmé que les autorités russes devraient répondre de ces crimes. Aujourd'hui, Vladimir Poutine semble interroger quels crimes. Son communiqué accuse les forces ukrainiennes de les commettre et l'Union européenne de les ignorer.
Marion Gauthier, pour arrêter la guerre, il suffirait donc d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. C'est en tout cas la thèse défendue par Vladimir Poutine dans cet échange téléphonique. Les Occidentaux ne vont pas dévier de leur ligne. Ce mardi, le Royaume-Uni a annoncé une nouvelle aide militaire de 350 millions d'euros à l'Ukraine. En visioconférence devant le Parlement de Kiev, le Premier ministre britannique Boris Johnson reconnaît des erreurs.
L'Ukraine a été invadée.
L'Ukraine a été envahie une première fois en 2014, lorsque la Crimée a été volée à l'Ukraine. Et la vérité est que nous avons été trop lents. Nous avons mis trop de temps à comprendre ce qu'il se passait et nous avons collectivement échoué à imposer les sanctions que nous aurions dû imposer à Vladimir Poutine. Nous ne pouvons pas reproduire cette erreur. Nous continuerons à approvisionner l'Ukraine en armes, en financement et en aide humanitaire jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif à long terme, qui doit être de fortifier l'Ukraine de telle sorte que personne n'osera plus jamais vous attaquer.
Boris Johnson devant le Parlement ukrainien.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Allez, on part maintenant aux États-Unis. Les Américaines et les Américains ont découvert hier que le droit à l'avortement pourrait bientôt être annulé par une prochaine décision de la Cour suprême. Le site américain Politico a révélé l'existence de ce projet de la plus haute juridiction des États-Unis. Quand il était au pouvoir, Donald Trump en a largement modifié la composition. Si la décision passe, l'avortement ne serait plus protégé à l'échelon fédéral, ce qui signifie que chaque État américain pourrait remettre en cause l'IVG. Pour Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis à Paris 2, c'est l'illustration des divisions de l'Amérique.
D'un côté, vous avez les progressistes qui sont les démocrates, parce que démocrates et progressistes aujourd'hui, c'est la même chose. Et une autre population conservatrice. Et dans chaque camp aujourd'hui, il y a des cris d'effroi. D'un côté, pour dénoncer cette opinion qui risque de devenir une décision ferme. Et de l'autre, pour dénoncer qu'il y ait eu une fuite et avoir empêché les juges de faire leur travail sereinement. C'est vrai que les réactions politiques sont très fortes aux États-Unis. C'est un véritable séisme, hein, il faut le comprendre, puisque cette décision remet en cause le droit à la vie privée, mais avec ce droit à la vie privée remis en cause, c'est tout un ensemble des fondements même de la société américaine ou des décisions qui ont été prises depuis qui sont elles-mêmes remises en cause. On peut citer par exemple le mariage homosexuel qui va être dans le collimateur très rapidement des conservateurs de la même façon.
Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis à l'Université Paris 2. Au procès des attentats du 13 novembre, un juge est devenu témoin aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris. L'ancien juge Marc Trévidy, qui était en poste à l'antiterrorisme pendant près de 10 ans jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015. 2 mois plus tôt, on lisait cette interview terrible. « Le pire est devant nous », avait lâché le juge Trévidy dans les colonnes de Paris Match. Vous avez entendu aujourd'hui son témoignage courageux, Gladys Laffitte. C'est le récit de l'impuissance de la justice pour empêcher les attentats. Le récit encore d'un mea culpa personnel.
Eh oui, à commencer par le fait d'avoir placé Sami Amy Moore, futur tueur du Bataclan, sous contrôle judiciaire et non en prison en avril 2012. À l'époque, c'est un dossier parmi d'autres, explique honnêtement le juge. Et puis, il y a eu l'appel de la Syrie en 2013. Tout le monde est parti, je n'ai jamais vu ça. C'était l'exode total. La gorge serrée, le magistrat avoue qu'à ce moment-là, le système judiciaire antiterroriste ne fonctionne plus, surchargé, sans moyens. Les temps de réponse deviennent très très longs. On écoute des sonorisations des jours après. On est dans une situation d'insécurité totale, dit Marc Trévidic, qui semble revivre l'époque à la barre. Son constat d'alors est providentiel. Tous les signaux sont au rouge, on n'a aucun moyen d'éviter ce qui se profile. Et aujourd'hui, on en est où ? Demande une avocate de partie civile. Je n'en sais rien, les moyens, ils sont arrivés tard et plein de gens sont morts, c'est tout ce que je sais, affirme Marc Trévidic, aujourd'hui président de cour d'assises à Versailles, loin des affaires terroristes.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre pour Europe 1. La jeune femme suspectée d'avoir agressé un pompier en marge de la manifestation parisienne du 1er mai sera jugée demain en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Elle est poursuivie notamment pour violence sur personne chargée d'une mission de service public, outrage et rébellion. Les pompiers sont maintenant davantage tournés vers le secours médical, puisqu'avec un nouveau décret paru il y a une semaine, eh bien ils sont autorisés maintenant à prodiguer de nouveaux gestes médicaux. Ils peuvent par exemple délivrer des antidouleurs. En tout, les pompiers peuvent donc pratiquer 12 gestes techniques qui étaient jusqu'ici réservés aux soignants. Yasmina Katou.
Les pompiers peuvent maintenant mesurer la pression artérielle ou encore la glycémie dans des situations d'urgence et avec l'accord d'un médecin, ils sont autorisés à effectuer un électrocardiogramme ou à administrer une dose d'adrénaline. Des gestes qui permettront de sauver plus de vies, se félicite Norbert Berginia, médecin-chef des sapeurs-pompiers dans la Manche.
Ces gestes-là permettent un diagnostic plus rapide. Ce diagnostic va permettre d'orienter beaucoup plus rapidement les patients dans la filière de soins. Plus tôt on prescrit ces médicaments, plus tôt la personne pourra avoir des chances d'être sauvée.
D'être sauvée et d'éviter des souffrances. Grâce à ce décret, Éric Florès pourra désormais délivrer des antidouleurs. Un soulagement pour le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Lorsqu'on faisait des transports sur des fractures, les personnes étaient dans nos ambulances et avaient des transferts d'une heure, quelquefois dans l'arrière-pays, pour aller à l'hôpital. Et là, avec ces nouveaux gestes, ils vont pouvoir avoir un traitement de la douleur et être transportés de manière sereine. C'est déjà une très bonne avancée.
Pour réaliser tous ces gestes, les pompiers seront formés par des médecins, des infirmiers et des pharmaciens. Et
Yasmina Katou, vous savez combien les cafetiers et les restaurateurs manquent de bras, surtout depuis la crise sanitaire. Une partie du personnel s'étant tournée vers d'autres horizons. Eh bien, à Ardelot, dans le Pas-de-Calais, un patron de restaurant a trouvé une astuce, lui, pour attirer de nouveaux salariés. Il a mis en place la semaine de 4 jours, payé 5. Maximilien Carlier est allé le vérifier sur place. En fait, ça marche.
Ludovic Bourguin est le patron du restaurant L'Océan, basé à Ardelot. En saison basse, 17 salariés employés. L'été, effectif multiplié par 3. Alors face aux difficultés pour recruter, ce gérant a instauré la semaine de 4 jours. Résultat rapide, en témoigne la pile de candidatures sur son bureau.
Depuis 6 mois, nous n'avions reçu aucun CV et depuis l'annonce des 4 jours travaillés et 3 jours de repos, nous avons reçu plus de 15 CV.
Il y a moins de problèmes d'embauche, m'a confié ce gérant, et cela redore en plus l'image du métier, une avancée sociale, plus de confort pour les serveurs et cuisiniers.
Alors certains salariés ont des enfants, donc un jour de plus, c'est un jour de moins pour la garde des enfants. D'autres approchent la retraite et quand on a 60 ou 62 ans, dans notre métier, ce troisième jour prend aussi toute son importance.
Certains d'ailleurs voulaient quitter la restauration, ils ont abandonné l'idée depuis. Avec cette semaine de 4 jours, pas de changement de salaire, elle est mise en place tout l'été, mais pourrait bien être pérennisée.
Maximilien Carlier dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. La demi-finale retour de la Ligue des Champions oppose ce soir le Villarreal et Liverpool. Villarreal qui mène 2-0 pour l'instant, ce qui place les deux clubs à égalité sur les deux matchs. Allez, un bon vieux classique du punk rock pour terminer ce journal. Il n'y a pas d'heure pour les Sex Pistols, peut-être à part un peu tôt le matin. En tout cas, quel scandale, on se souvient, les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent à la sortie de God Save the Queen en 77. 45 ans plus tard, eh bien les Pistols ont toujours le sens du rythme, on va dire en tout cas du timing, puisque ce God Save the Queen va ressortir en vinyle le 27 mai, pile avant la célébration des 70 ans du règne d'Elisabeth II. Si vous êtes fan de vinyle et de Sid Vicious, il faudra être rapide puisque l'édition devrait être très limitée, nous dit-on. Tout de suite la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Un petit vinyle des Pistols, Marlène Duret, pour vous, non ?
Volontiers.
Ça vous ferait plaisir ?
Oui, absolument.
Bon, il faudrait être très très réactif.
Je veux bien le vinyle, j'ai encore une platine disque.
Plus près de nous, oui. Le temps pour demain, on aura des averses orageuses, hein, Marlène ?
Oui, les orages d'aujourd'hui, déjà autour des massifs montagneux, se sont résorbés. Quelques pluies résiduelles se produiront en matinée du côté de Midi-Pyrénées, dans le sud Aquitaine. Et puis les averses vont reprendre, en effet, Alexandre, demain, des Pyrénées à la façade est, en passant par le massif central et la région centre. Et puis dans l'après-midi, eh bien, ces averses pourront tourner à nouveau à l'orage en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, en Lorraine et en Alsace, d'abord sur le relief avant de gagner les plaines environnantes. Prévoyez du temps sec en revanche en allant vers la région parisienne, la Manche, la façade ouest du pays où le soleil fera parfois de très belles apparitions, également aussi sur le pourtour méditerranéen.
Les températures, Marlène, ce sera un peu comme aujourd'hui. Hein.
Oui, stationnaire, avec un minimum de 15 degrés au Havre, 16 à Tarbes vers les Pyrénées, 18 à Lille et Clermont-Ferrand, 19 à Dijon, 20 degrés à Paris, Mulhouse et Nice, 21 à Nantes, à Montauban, à Grenoble, 22 à Lyon et Bordeaux, 24 à Nîmes. Et à partir de dimanche et jusqu'au milieu de semaine prochaine, les températures vont continuer à monter puisqu'on nous prévoit des journées dignes d'un début d'été. Le soleil dominera. Au niveau des pluies, malheureusement, c'est pas bon pour nos régions qui manquent cruellement d'eau. Toujours.
D'eau, la sécheresse, bien sûr.
Nous aurons quelques averses, mais ce ne sera pas suffisant.
Pas suffisant. Merci Marlène Duret. On vous retrouve pour un nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui hésite encore avant le verdict demain de la Banque Centrale Américaine.
Pas beaucoup de risques non à Wall Street. Le Dow Jones plus 0,2%, 33 129 points. Le Nasdaq plus 0,2 aussi, 12 563 points. La Banque Centrale Américaine devrait de nouveau remonter ses taux directeurs demain soir de 0,5 points pour tenter de lutter contre la résurgence de l'inflation, l'inflation qui galope. Les valeurs de technologie du coup hésite, on tourne un petit peu autour du pot. Hein. Intel plus 0,2%, Facebook plus 0,4%, Tesla plus 0,7%. Il y a quand même Apple qui reprend 1%, $159,50. Amazon est en légère baisse de 0,2%, Microsoft moins 0,9%. Rien de convaincant. Le pétrole recule un petit peu, il revient sous les $102 le baril. Ça n'empêche pas Exxon de grimper de 2% ce soir, $88,19. L'euro remonte un petit peu, il était descendu très bas à 1,05, il remonte à 1,0525 face au billet vert.
La bourse de Paris a repris un peu de hauteur avec le secteur bancaire après les bons résultats de BNP Paribas.
Oui, plus 0,79%, 6476 points sur le CAC 40. BNP Paribas progresse de 5%, le bénéfice net trimestriel a bondi à 2,11 milliards d'euros avec l'aide des activités de marché, de quoi confirmer les objectifs du groupe et entraîner tout le secteur bancaire à la hausse. Société Générale, plus 3%. Crédit Agricole, plus 2,6%, 10,48€. Une belle tenue aussi du secteur automobile qui remonte. Renault, plus 3,8. Valeo, plus 3,4. Stellantis gagne 3%, 12,97€.
Exception du jour, Didier, c'est le titre Bonduelle qui perd plus de 3%.
Le spécialiste des légumes, Bonduelle, perd effectivement 3,4% et retombe à 15,62€ après des comptes trimestriels en hausse quand même de 4%, 725 millions d'euros. Dans un contexte qui reste complexe, difficile avec la hausse des coûts de l'énergie, un environnement économique instable et un titre en baisse ce soir, Bonduelle, moins 3,4%. Les autres places financières sont en hausse quand même. En Europe, le DAX, plus 0,7% à Francfort, Bruxelles, plus 0,4%, Milan, plus 1,6%, le CAC 40, donc plus 0,79%, 6 476 points.
Merci Didier Hamot. Ça fait partie des mauvaises nouvelles, on va dire, hein, du 1er mai. En tout cas, si vous cherchez à renforcer l'isolation thermique de votre logement au meilleur prix, les aides d'État pour les travaux d'isolation diminuent. On en parle ce soir avec notre invité éco. Bonsoir Sylvain Lefaleur.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur d'Elowatt. Alors, vous avez, je crois, 5 ans d'existence, hein.
Oui, tout à fait.
Ouais, Elowatt, c'est un site internet et une appli pour smartphone à travers lesquels vous proposez tout un tas de solutions pour réduire sa facture d'énergie. Expliquez-nous justement, quelles sont les solutions que vous proposez avec Elowatt ?
Bah justement, on cherche à proposer toutes les solutions pour maîtriser sa consommation et sa facture d'énergie. Donc concrètement, il y a 3 grands volets. Le premier, ça aide de choisir le prix et la provenance de son énergie. Donc on a un comparateur des fournisseurs d'énergie. Sur lequel il y a beaucoup de demandes en ce moment, puisqu'il y a pas mal de particuliers qui cherchent à se protéger contre les futures hausses des prix de l'énergie.
Et les actuels, déjà deuxième...
Et les actuels, ouais. Tout à fait. Il y a des hausses qui ont eu lieu et des façons de se protéger des hausses futures. Ensuite, il y a un ensemble de solutions pour maîtriser sa consommation d'énergie. Donc là, on parle justement de la rénovation énergétique de son logement. Et donc ça, c'est isoler son logement et installer des systèmes de chauffage qui soit performant, donc c'est surtout des pompes à chaleur et des chauffages au bois aujourd'hui. Et enfin, le dernier volet de solution, qui connaît aussi une forte hausse depuis 6 mois et depuis la hausse des prix de l'énergie, qui est l'installation de panneaux solaires en autoconsommation, du coup sur le toit des particuliers.
Alors là où ça se complique, hein, j'en parlais il y a un instant, depuis ce 1er mai, si on veut se lancer dans des travaux pour améliorer l'isolation thermique de son logement, le gouvernement a baissé les aides liées au CEE, les certificats d'économie d'énergie. C'est des baisses qui vont de 20 à 30%. Tout de même, c'est un peu difficile à comprendre dans le contexte actuel, Sylvain Lefaleur.
Ça peut effectivement aller jusqu'à ces montants-là, voire même un peu plus, hein, en fait, sur l'isolation des murs ou des combles perdus ou des planchers bas. C'est effectivement assez compliqué à comprendre. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur le fait que c'est des politiques qu'il faut développer encore plus avec la crise en Ukraine, parce que c'est de l'indépendance énergétique, c'est réduire la facture d'énergie des ménages, et c'est aussi des emplois qui sont non délocalisables, sans parler de l'impact carbone de ces mesures qui est très significatif. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez étonnant au moment où on nous parle de planification écologique, et donc on peut espérer qu'il y ait des politiques ambitieuses qui soient ensuite mises en place à court et moyen terme. Le signal est aussi assez contradictoire parce que il y a quelques semaines, mi-avril, il y a eu à l'inverse une augmentation des primes sur l'installation de systèmes de chauffage, donc notamment les pompes à chaleur et les chauffages au bois, donc poêle à bois ou chaudière biomasse, qui sont effectivement des systèmes de chauffage qui sont à la fois économiques et écologiques et qui permettent aussi de bénéficier d'un maximum d'aide de la part des pouvoirs publics.
Oui, au moment où les gouvernements d'ailleurs parlent de lutte contre les passoires thermiques, il y a des signaux visiblement un petit peu contradictoires qui sont envoyés, si on vous écoute Sylvain Lefaleur. La demande, en tout cas pour la rénovation thermique, elle est en augmentation pour ce type de travaux justement ?
Oui, tout à fait. Nous, en tout cas, ce qu'on constate sur notre service, hein, donc c'est les demandes qui ont lieu sur le site elowatt.fr ou depuis l'app Elowatt, qui est une app qui permet de suivre et de comprendre sa consommation, en déterminant quelle est la part du chauffage, de l'eau chaude dans ses différents usages, s'il y a des surconsommations et les solutions pour les résoudre. Et donc, via ces deux outils, on a effectivement une augmentation assez forte du nombre de demandes. Alors, c'est sûr que du coup, vu le contexte géopolitique et l'augmentation du prix de l'énergie, c'est vrai que ça semble pas être le meilleur moment pour baisser les aides sur la rénovation énergétique, puisqu'on a justement plutôt besoin que ces projets aillent au bout, les projets des particuliers, enfin les demandes qu'on a, qu'un maximum de projets puissent aboutir, puisqu'il y a aujourd'hui plutôt une urgence à réduire notre consommation d'énergie, et notamment la consommation d'énergie fossile, ce qui se fait par deux façons, hein, principalement dans le logement des particuliers, soit en isolant le logement pour réduire la consommation de chauffage, soit en remplaçant un système de chauffage fossile, donc à gaz ou au fioul, par des systèmes électriques ou au bois.
Alors, je voyais votre site, Sylvain Lefebvre, il est très bien fait. Hein, d'ailleurs, HelloWatt.fr, vous proposez justement des tests d'éligibilité pour les ménages, pour les foyers, à tout un nombre, à toutes les aides justement à la rénovation thermique en particulier. Les aides CEE étant en diminution, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs peut-être plus méconnus vers lesquels on peut aussi se tourner ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a trois grandes aides sur la rénovation énergétique que je vais pouvoir détailler. Et effectivement, pour expliquer un petit peu la façon dont ça se passe, ou ce que nous, on propose sur le site d'HelloWatt, c'est d'avoir une approche très précise sur qu'est-ce que ça coûte, les différents gestes d'isolation, les différents installations de systèmes de chauffage qui peuvent ou d'installations de panneaux solaires qui peuvent être considérées, quelles sont les aides de l'État, et donc quel est le reste à charge que, en tant que particulier, je vais devoir débourser, et de mettre en face les économies d'énergie qui sont attendues. Et qu'on peut justement déterminer un peu précisément en calculant la part du chauffage avec les analyses qu'on peut faire sur les données de consommation qui peuvent être issues des compteurs communicants Linky et Gaspar. Donc, ceci étant dit, donc c'est assez important pour fiabiliser la recommandation. On va faire en fait un diagnostic, un audit énergétique, une analyse énergétique du logement et des gestes qui sont possibles. Et ensuite, effectivement, ce qui est particulièrement important, c'est de rendre tout ça simple et facile à mettre en place pour un particulier. Donc, une fois que l'étude, technico-économique est faite et qu'on a vérifié l'éligibilité technique, il va y avoir du coup le passage dans le logement d'un professionnel, d'un installateur pour faire la visite technique, confirmer le devis, puis la réalisation des travaux. Et en parallèle, effectivement, on s'occupe du coup de la gestion des primes. Donc, il y a les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est une prime qui va être directement déduite sur le devis. Donc, le particulier n'aura pas à avancer les frais. Il y a également ma prime Rénov, qui est notre prime connue, dont le montant dépend notamment aussi des ressources du ménage. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est les aides locales. Il y a parfois des aides qui sont proposées par les régions, les départements, les communautés de communes, et qu'il est souvent intéressant d'aller chercher pour les particuliers.
Je reviens sur les passoires thermiques. C'est surtout, Sylvain Lefebvre, le fait du bâti ancien ou pas forcément ? Je veux dire, est-ce qu'on trouve encore régulièrement du récent ou du neuf qui soit vraiment mal isolé ?
Alors, dans ce qui est neuf aujourd'hui, normalement non, hein, parce qu'il y a des normes sur la construction des nouveaux logements, et on doit avoir des logements qui sont particulièrement efficaces énergétiquement. Donc non, le sujet est vraiment sur le bâti ancien.
Sur l'ancien.
Là, il y a un stock de logements très important à rénover. Et d'ailleurs, la loi énergie-climat, hein, qui date d'un peu moins d'un an, va mettre des grandes limitations sur ces logements passoires thermiques, puisqu'il deviendra compliqué de louer une passoire thermique, donc même impossible, quand elle a un DPE parmi les plus mauvais, c'est-à-dire F ou G.
Je crois que vous comptez plus de 300 000 utilisateurs, hein, sur HelloWatt, Sylvain Lefebvre. Le service, les conseils que vous proposez, ils sont gratuits sur votre appli, sur votre site ?
Oui, tout à fait. Les conseils et l'accompagnement est gratuit. On fait du coup le pari que si on est suffisamment bon et précis dans nos recommandations, eh bien les particuliers auront envie de justement signer avec HelloWatt pour faire leurs travaux de rénovation énergétique. Mais c'est quelque chose de très classique. On encourage d'ailleurs les particuliers à le faire, hein, de toujours, quand on fait des travaux de ce type-là, demander aussi un autre devis pour pouvoir les comparer.
Merci beaucoup Sylvain Lefebvre, HelloWatt.fr, site internet et appli pour smartphone, tout un tas de solutions pour réduire sa facture d'énergie. 22h29.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec les unes des quotidiens pour demain mercredi 4 mai, objectif plein emploi, les embûches sur la route de Macron, c'est la une de l'opinion alors que le président vise cet objectif du plein emploi pour son second mandat. Ça passe par des réformes délicates, on pense aux retraites, à l'assurance chômage et cela risque de se heurter à la dégradation de la conjoncture. Menace sur l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, c'est la une de Libé, les femmes en fin de droit alors que la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, devrait annuler l'autorisation d'avorter au niveau fédéral. Décision qui ouvrirait donc la voie à d'autres régressions. Joe Biden appelle les Américains à riposter dans les urnes. Le Figaro et La Croix, enfin, regardent dans la même direction demain matin. La Chine dans le piège du zéro Covid. Le confinement, on vous en parlait hier sur Europe 1, dure depuis un mois à Shanghai, sans pour autant parvenir à entraver la circulation du virus. Le régime chinois s'enferme dans une impasse de plus en plus impopulaire. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Comment ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Vous avez un grand sourire, je ne sais pas, vous me cachez quelque chose,
mais
non ?
Pas du tout, tous les soirs vous me dites que j'ai le sourire, mais c'est parce que je suis heureux de me retrouver là à 22h30 tous les soirs.
Comme dirait Coluche, j'aime bien être content.
Exactement, voilà. Et puis il vaut mieux être content que...
Ah, voilà. Complètement.
Il vaut mieux penser positivement. Hier soir, deux jeunes Québécois m'ont appelé, des quarantenaires qui avaient migré vers le Québec, voyez-vous, et on a eu un échange très intéressant. Et ça m'a permis de dire que j'essayais de voir les choses positivement et que j'en avais un peu marre d'entendre dans ce pays toujours des gens pignés, voyez-vous.
Pignés ?
Oui, parce que ça pigne beaucoup ici en
le
France.
Le verbe pigner.
Voilà. Donc du coup, c'était fort intéressant. D'ailleurs, on aura l'occasion de les réentendre parce que nous ne sommes pas allés au bout de notre échange qui était fort intéressant.
Vous êtes un militant du verre à moitié plein.
Oui.
Mais oui.
Clairement.
Mais oui.
Clairement, il a fallu que je réfléchisse, vous avez vu. Voilà, un militant, oui, à 200% du verre plein.
Vous avez raison.
Voilà. D'où ce sourire. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash. À tout à l'heure.